En flux libre,
l'émission qui distille du libre dans tes tuyaux. Toutes les deux semaines, l'actualité du libre et de Linux. Présenté par Ghislain Larose, Alain Devarieux.
Toutes et à tous et bienvenue dans le deuxième épisode, le deuxième podcast d'En Flux Libre. Merci à tous d'avoir pu déposer vos commentaires et ils nous ont été très utiles puisque j'espère avoir, ou en tout cas on espère avoir corrigé l'ensemble des petites choses qui n'allaient pas sur le son notamment, le générique, la longueur. Donc vous découvrirez ça très vite et laissez-nous toujours autant vos commentaires. Je remercie également Stinux qui nous a offert une petite tribune dans son émission L'écho des Gnous, où j'ai pu parler un peu du projet. Merci à eux et merci également à Framapad qui... Framasoft, pardon, pas Framapad, c'est sur quoi on travaille. Framasoft qui a pu nous mettre en lien sur son wiki Framapodcast, un wiki où vous pouvez découvrir l'ensemble des podcasts sur Linux et sur le logiciel libre. Donc, n'hésitez pas à y aller, on vous mettra ça bien sûr en lien. À mes côtés pour m'accompagner, il s'appelle Alain, il est juste en face de moi.
Bonjour.
Bonjour et merci encore une fois d'être à mes côtés pour animer cette émission.
Avec plaisir.
Et surtout vous permettre de découvrir et de découvrir de Linux et des logiciels libres. Excusez-moi, je suis un peu stressé, je ne sais pas pourquoi. Tout de suite, sans plus attendre, on va attaquer le sommaire. Aujourd'hui, on commence par des news avec LibreOffice, le réseau Tor, Denis Ritchie, Plasma Active de KDE, Ubuntu 11.10 et l'actu du noyau Linux. Le focus, la partie focus sera consacrée à OpenStreetMap, le Google Maps du libre. La digitalisation avec un spécial langage des geeks. À bientôt à Madame Michu qui nous écoute, cette rubrique est pour toi. Le site du jour, ça sera un gros morceau avec linuxfr.org.
La Linux French page.
Pour les intimes. Et on passera faire un coucou à distrowatch.com pour le point distrowatch. Et enfin, les rendez-vous du libre à Rennes et aux alentours. Mais sans plus attendre, je passe la parole à Alain qui va nous expliquer la première news. C'est à toi Alain.
Alors on commence aujourd'hui avec la Document Foundation qui a annoncé le portage prochain de LibreOffice sur Android et iOS. Alors évidemment, ce portage-là sera surtout utile pour les tablettes plus que pour les smartphones, hein, puisque sur un smartphone, c'est quand même un tout petit peu petit pour faire de la bureautique. Alors le projet n'est pas mené directement par la Document Foundation, il est mené par Tor Lilqvist. J'ai beaucoup de mal à le prononcer, c'est pas facile.
C'est comme Linus Torvalds.
Voilà, il y a beaucoup de consonnes. Alors c'est un développeur indépendant suédois. Il est déjà connu pour avoir porté GIMP sur Windows. Donc on espère que le portage de LibreOffice pour Android et iOS se passera très bien et que on aura enfin quelque chose de vraiment pratique à utiliser sur tablette pour faire de la bureautique.
Je précise juste qu'on vous mettra la vidéo puisqu'il y avait une vidéo pendant la conférence qui avait été mise en ligne, donc on vous mettra la vidéo. Et apparemment le portage ne serait bon que pour 2013, donc patience.
Oui, c'est pas pour tout de suite. Et j'ajouterais aussi par rapport à ça, puisque ça avait été annoncé en même temps, le projet LOL, Linux, non, c'est LibreOffice Online, oui. Donc bientôt un LibreOffice dans le cloud également. Mais voilà. C'est pas pour tout de suite non plus.
Non, c'est pas pour tout de suite. Hein. Je pense qu'à mon avis, ils doivent vouloir peut-être mettre les projets en eux, même s'il y a un projet qui est plus indépendant qu'un autre, je pense qu'ils vont vouloir peut-être se rallier pour pouvoir porter. LibreOffice un peu partout, donc pour un peu on aura un futur Microsoft Office Online, un concurrent en tout cas d'Office Online ou de Google Documents sur les tablettes et PC. Deuxième news, le réseau Tor ébranlé par des chercheurs français, une équipe dirigée par l'informaticien Eric Filliol affirme avoir mis au point une méthode qui permettrait l'identification de l'ensemble des nœuds du réseau et donc procéder au déchiffrement des communications. Alors le réseau Tor, juste très vite fait, qu'est-ce que c'est ? C'est ce qu'on appelle un réseau en oignon, c'est-à-dire qu'il est décentralisé au niveau des routeurs, il est organisé en couches et il permet la transmission de manière anonyme des paquets TCP. Le logiciel est un logiciel libre sous licence BSD. Et justement, ces chercheurs ont pu aller à l'intérieur de ce réseau, permettre l'identification et carrément, en gros, découvrir tout ce qu'il y avait à l'intérieur du réseau Tor. Donc c'est une très mauvaise nouvelle pour le réseau, puisque évidemment ce réseau servait pour les dissidents, les journalistes du monde entier, enfin les gens qui ne voulaient pas forcément être visibles sur le réseau. C'est une très mauvaise nouvelle parce que ça discrédite énormément, ça discrédite tout simplement le réseau qui a prouvé par le passé qu'il pouvait être un réseau à la fois sans foi ni loi, mais aussi un réseau qui pouvait très bien servir à la cause, comme par exemple une news de PC Impact qui nous relate que la fondation, donc Tor, qui est responsable de ce fameux réseau, pourrait donc se mettre à la chasse de contenu pédopornographique grâce à Tor. On vous mettra la news en ligne. Donc voilà, ces chercheurs ont discrédité un peu le réseau Tor, malheureusement. La confiance donc dans le réseau risque d'être ébranlée si jamais la méthode des chercheurs est valide, parce qu'elle n'est pas encore complètement valide, hein, elle n'est pas encore complètement implémentée. Mais en tout cas, pour les utilisateurs, ça serait aussi une perte, parce que ça peut les placer en mauvaise posture face à des régimes comme l'Iran. Et on sait que l'Iran veut en finir complètement avec Tor, et donc ça serait une très mauvaise nouvelle, encore une mauvaise nouvelle aussi pour la neutralité du net. Je salue mes amis de la quadrature au passage. La prochaine news, mon cher Alain.
Alors la prochaine news, c'est la session sur les gens qui sont morts. Le mois d'octobre a été assez fatal aux pionniers de l'informatique, avec d'abord Steve Jobs, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé il y a deux semaines. Et puis là, récemment, c'est Dennis Ritchie, le père du langage C et le co-développeur d'Unix, qui est décédé. Donc, mauvaise nouvelle pour tous les fans du libre. Le langage C, c'est également le second langage le plus utilisé pour développer. Et il y a également, donc, après Dennis Ritchie, il y a également John McCarthy, le créateur du langage Lisp, qui est décédé récemment. Le langage Lisp, hein, c'est pour faire de l'intelligence artificielle. Donc voilà, un mois d'octobre
assez néfaste,
tout à fait.
Il y avait aussi, et puis l'analogie est un peu brutale, mais elle est intéressante, puisqu'on sait très bien que Apple Mac OS X, le logiciel, le système d'exploitation d'Apple, est aussi développé sur Unix. Donc bon, c'est un peu les grands créateurs qui partent. Enfin, bon, avec Steve Jobs, on en doute, mais voilà. Plasma Active One est donc, a été présenté le 9 octobre dernier, hein, par l'équipe en charge du développement de KDE, et c'est un gros pavé dans la mare des interfaces tactiles pour tablettes, c'est-à-dire iPad, Android, ou des futurs modèles sous Windows 8. C'est géré de manière différente, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des applications comme une tablette Android ou une tablette iPad, c'est regroupé en activités. On a d'ailleurs ça sur les versions bureau de KDE, notamment KDE 4.7, qui permet ce genre de choses-là. Donc des activités, que ce soit des photos, un événement particulier, des projets, des trucs, enfin pour préparer des vacances. Voilà, c'est, on peut créer le nombre d'activités que l'on veut, donc c'est là où c'est révolutionnaire. Un, c'est déjà libre, et puis deux, ça pourrait intéresser en tout cas des constructeurs d'implémenter directement Plasma Active One, surtout que Linux a décidé de faire du noyau du support long terme avec Linux. D'ailleurs, j'en reparlerai tout à l'heure dans une autre news. D'avance, Plasma Active est fourni avec un lecteur de musique, un éditeur de documents et puis un calendrier. Donc par exemple, l'éditeur de documents, c'est Caligra, hein, Caligra qui est assez connu du monde de KDE. Les lecteurs de musique, c'est Bangarang Active, qui n'est pas beaucoup utilisé, mais je sais que pour avoir installé Chakra Il y était dessus d'avance, et donc un calendrier contact touch. L'ISO est disponible, il y a des ISO qui sont construites directement disponibles sur le site de KDE, et la version 2 devrait arriver à la mi-décembre, et la troisième version l'année prochaine, avec notamment peut-être un support de l'ARM qui devrait arriver en cours d'année prochaine. Donc souhaitons bonne chance aux équipes de développement de KDE pour ce Plasma Active One. Prochaine news, Alain.
La suite donc avec la sortie de Ubuntu 11.10 Oneric Oslo. Alors Oslo, c'est pour la définition, c'est une sorte de petit chat sauvage, très mignon. Enfin, moi j'aimerais bien en avoir un dans mon salon en tout cas.
Il va tout te déchirer dans ton salon.
Voilà, la tapisserie, la totale. Ouais. Au menu de ce Ubuntu 11.10, on a du GNOME 3.2, Unity 4.22 et Compi 0.9.6. Donc Unity, l'interface qui fait râler pas mal de monde. Hein,
non, tu veux dire qu'il fait troller.
Qui fait troller, ça troll.
Qui fait troller pas mal de monde.
Ça troll trop sévère, c'est clair. Ensuite, GDM qui a été remplacé par LightDM, le gestionnaire de connexion. Donc LightDM, l'avantage par rapport à GDM, c'est que GDM, on est à environ 50 000 lignes de code. LightDM, on est à 10 000 lignes de code, donc on a quelque chose d'un petit peu plus efficient, j'ai envie de dire. Carrément, ouais. Et un petit logiciel de sauvegarde qui a été intégré, déjà dupe, que je n'ai pas testé.
Moi non plus, mais je vais sans doute bientôt le tester, puisque comme je suis en train de tester Ubuntu.
Tu nous en diras des nouvelles.
Bien sûr, il n'y a pas de souci. À noter que GNOME s'intègre parfaitement, puisque j'ai pu installer GNOME 3.2 sur l'Ubuntu 11.10 et ça marche très bien. Attention par contre au pilote de carte graphique propriétaire, puisque il y a un peu de mal. Il y a encore une implémentation qui n'est pas tout à fait parfaite, notamment pour les cartes ATI.
C'est bon à savoir.
Voilà, c'est très bon à savoir. C'était tout pour ta news.
On peut enchaîner.
Eh bien, on va enchaîner, Alain, avec la troisième news et la version.
Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6ème news.
Pardon,
déjà.
La 6ème news, mais moi, sur mon conducteur, j'ai ma 3ème news. Version LTS pour les noyaux Linux, donc un peu en rapport aussi avec Ubuntu. Donc tout le monde connaît un peu les versions LTS d'Ubuntu. Hein,
qu'est-ce que ça veut dire?
Voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Long term support, c'est-à-dire que les mises à jour sont faites sur 3 ans au lieu de. De mémoire 2, je crois, pour les...
Je sais pas exactement.
Je crois que c'est 2 de mémoire pour les versions normales. Et par exemple, la 8.04 d'Ubuntu était une version LTS, la 10.04, et la prochaine version, la 12.04, donc l'année prochaine, sera aussi une LTS. Et le noyau Linux pourrait également suivre le même chemin. Donc ça serait un statut LTSI, Long Term Stable Kernel Initiative. Donc pareil, hein, même chose, hein, c'est-à-dire que proposer à des constructeurs intéressés et garantir en fait un support du noyau Linux beaucoup plus longtemps qu'un support de noyau normal, hein, d'un noyau tout à fait normal. Donc ça serait sur 2 ou 3 ans. La Linux Foundation, donc la fondation responsable du projet Linux, a déjà eu le soutien de Hitachi, LG, Panasonic, Sony et Toshiba, hein, remarquez d'ailleurs que ce ne sont que des asiatiques. Ça n'a aucun rapport, mais on va dire que ce ne sont que des asiatiques quand même. Je voulais faire un rapport, mais en fait je me suis aperçu que c'était pas bon. Donc il pourrait être maintenu sur 2 ou 3 ans. Ça serait intéressant d'ailleurs pour des appareils tournant sous Android, et comme la durée moyenne d'un produit grand public c'est environ 2-3 ans, ça pourrait être déjà beaucoup mieux que des versions qui sortent tous les 2-3 mois comme le fait également les noyaux Linux. En parlant de noyau Linux, la 3.1 vient de sortir. Je vous inviterai à lire la dépêche linuxfr.org.
Si vous avez 3 heures à tuer.
Si vous avez 3 heures à tuer, parce que les dépêches de linuxfr sur les noyaux sont absolument indigestifs. Enfin, en tout cas, si vous avez mangé quelque chose d'indigeste, ne lisez surtout pas le noyau. Mais si vous avez 3 heures à tuer, allez-y. C'est très intéressant.
C'est passionnant. Ouais.
C'est très passionnant. C'est pas ça le souci. C'est plutôt que c'est assez. Indigeste.
Ah, c'est du lourd. Hein,
voilà, c'est du très très lourd. Alain, la suite. Ah, attention.
Allez, on termine les news avec de l'insolite.
Je ne suis pas responsable de ce qu'il va dire.
Moi non plus. Alors, le Kinsey Institute for Sex Studies
attention,
nous annonce, suite à une étude sur 6 mois, qu'il paraîtrait, alors je mets ça au conditionnel, que la taille du pénis des utilisateurs de Linux serait plus importante que celle des utilisateurs de Windows et de Mac. Donc voilà, messieurs les Linuxiens, je vous envoie toutes mes félicitations là-dessus, et on passe de suite au focus après cette news inutile.
S'il vous plaît, les commentaires inutiles. Ça ira. C'est du grand n'importe quoi, là, franchement.
Merci.
Reprenons nos esprits et passons au focus avec OpenStreetMap et cette news insolite sur le sexe. Non, les gens d'OpenStreetMap ne sont pas des gens bien membrés. Ils sont tout à fait normaux. En plus, j'ai fait des grosses erreurs. J'ai beaucoup de mal à parler aujourd'hui. Alors, OpenStreetMap, peut-être que vous l'avez déjà entendu parler, c'est un projet. Dans le but de créer des cartes libres, c'est-à-dire qu'on sait qu'aujourd'hui, toutes les cartes qui peuvent exister, les cartes Michelin, les cartes IGN, les cartes de Google Maps, ne sont pas sous licence libre, donc aucune réutilisation pour quelconque projet n'est autorisée, ou alors il faut un tas d'autorisations dans certains pays, enfin, c'est le bordel. OpenStreetMap, lui, passe outre ça, puisqu'il met à l'œuvre les contributeurs, les utilisateurs comme vous et moi ou Alain, pour pouvoir fonctionner. Il a été créé en juillet 2004 par Monsieur Steve Coast à l'université du Collège de Londres. Et toutes ces informations sont regroupées sur Internet, et notamment sur le site osm.org ou openstreetmap.org. Alors, c'est un truc très convivial, où tout le monde peut contribuer, c'est-à-dire qu'on peut prendre un GPS, se balader dehors, j'ai envie de faire un peu de cyclisme, je vais dans un petit chemin, et hop, vous démarrez votre GPS, votre tablette, bon, c'est vrai que pour faire du vélo, smartphone c'est peut-être mieux, parce que pour faire du vélo, c'est vrai qu'une tablette c'est peut-être un peu moyen, mais en tout cas un smartphone, vous activez votre GPS avec un logiciel associé, et paf, vous avez votre trace GPS. Grâce à des éditeurs, vous pouvez rajouter vos commentaires, si c'est un chemin, si c'est une route, une autoroute. Enfin, en même temps, pour faire du cyclisme sur autoroute, c'est un peu difficile. Mais en tout cas, une autoroute, même en voiture, hein, c'est quelque chose de totalement possible. Donc, tous les petits chemins, les petites annotations. Donc, vous pouvez y aller à pied, à deux roues, à roller, à ski, dans un véhicule automobile, en bus, en train. Vous pouvez créer n'importe quelle trace et ensuite, grâce à un éditeur, faire ce que vous voulez, c'est-à-dire mettre qu'une annotation que la route est limitée à 90, à 130, à 30, à 10, si c'est une petite roue piétonne, une rue piétonne, pardon, ou si c'est une rue pour aller chez soi. C'est extrêmement convivial. J'ai d'ailleurs participé, moi, une fois à une carte au parc. C'est très bien à faire. Enfin, on connaît en plus des gens, on se balade, on voit des endroits qu'on n'avait pas l'habitude de voir, et tout ça ensuite elle se retrouve quelques heures plus tard sur les serveurs d'osm.org et vous pouvez les consulter sur la carte. Donc il existe différents logiciels d'édition de cartes, hein. Le plus connu c'est, enfin à mon sens en tout cas, celui que j'utilise toujours, c'est JOSM, qui fonctionne sous une machine Java, dont l'interface ressemble à une interface web, donc elle permet de gérer des couches de données, des traces GPS, des photos aériennes, des coordonnées également GPS, hein, puisque sur certains téléphones ou certains smartphones, vous pouvez, quand vous prenez une photo, mettre le GPS en route, donc ça vous date un peu votre photo GPS. Il y a aussi MapRitive qui s'appelait anciennement Cosmos, mais le projet avait été abandonné. Mercator qui est un logiciel basé en Qt, donc plus pour les gens qui sont habitués sous KDE. Également Potlatch, mais bon, codé en Flash, on essaiera de pas trop en parler. Il faut évidemment des logiciels pour rendre ces cartes. Il en existe deux, notamment quand vous utilisez ce logiciel pour Android, hein, des logiciels de rendu. Vous avez besoin soit de Mapnik ou de OSM à Render. Donc voilà. À signaler qu'effectivement, par rapport, il y a un avantage et non pas des moindres, c'est-à-dire qu'en France ou ailleurs dans le monde, On voit énormément de modifications de route, des ronds-points qui n'existaient pas. Sous Google Maps, parfois, je ne sais pas si vous avez déjà utilisé le navigateur, mais vous pouvez vous retrouver en plein milieu d'une rue qui a complètement modifié de sens de circulation, ou un rond-point qui vient de s'élever, ou des feux rouges qui ont été mis, ou des travaux. Sur ouais. OpenStreetMap, c'est totalement possible de les annoter, c'est-à-dire que c'est en temps réel. Que Google Maps, évidemment, bah, vous n'allez pas prendre une voiture, faire le tour du patelin. Ouais,
je prends regarder... l'exemple de Google Maps, justement, quand on sort de Rennes, il y a eu des travaux de fait sur la route.
Voilà, ouais.
C'est toujours pas pris en compte et voilà. Il est persuadé pour l'instant que je coupe à travers champs à
voilà.
chaque fois que je sors de Rennes.
Tout à fait, pareil pour moi. On passe à côté, alors que justement, la réactivité d'OpenStreetMap, c'est les contributeurs. C'est-à-dire que vous et moi, vous pouvez prendre votre GPS, hop, dire que pour l'instant, il y a des travaux, que pour l'instant, c'est pas fini et que vous coupez pas à travers champs. Et voilà, tout simplement, c'est et par miracle, vous avez votre route qui est tracée. Cette route peut être remodifiée, parce que malheureusement, vous n'allez pas dire à Google, tenez, monsieur Google, voilà, j'ai enregistré une trace, votre route, elle est pas bonne, vous me faites couper à travers champs, est-ce que vous pouvez la modifier ? Non, vos données sont pas publiques, monsieur. Ah, mais oui, dommage.
Voilà,
donc c'est une très bonne alternative à Google Maps. Il manque peut-être, je pense, à mon sens, un gros projet, c'est-à-dire quelque chose de la puissance de feu de Google Earth, qui permettrait, enfin, même s'il existe Marble pour KDE, mais il manquerait, moi, je pense, à mon sens, un gros projet. Pourquoi pas rajouter une couche satellite, rajouter... Enfin, il y a plein de trucs peut-être à rajouter et peut-être à retravailler. Mais en tout cas, je vous invite à aller sur openstreetmap.org, découvrir le projet, peut-être vous inscrire. Et n'hésitez pas surtout à taper cartoparty sur Internet, hein, sur Google. Il y a toujours à côté de chez vous des petites cartoparty. Moi, j'essaierai peut-être d'en organiser une si Alain sera d'accord.
Ouais, pourquoi pas. Ouais, j'en ai jamais fait, ça doit être pas mal.
Alors ouais, c'est super bien. Donc peut-être que voilà, il y a peut-être... moyen de faire ça. Il y a ça donc pour les routes et tout ça. Il y a aussi pour les cartes nautiques OpenSeaMap, mais pour l'instant elle n'est pas très avancée. Il n'y a que le port de Hambourg qui a été rempli. Tout le monde habite pas Hambourg. Open Cycle Map, ça c'est pour les cyclistes, donc pour les routes pour les cyclistes. Open Piste Map pour les skieurs, donc il en existe,
ah ouais.
Il en existe des milliers, des milliers.
C'est l'avantage quand c'est open, c'est qu'on peut rajouter tout
voilà.
ce qu'on veut autour.
Oui,
quoi.
Oui, voilà, ouais, tout à fait. On rajoute les points d'intérêt qu'on estime, une église de tel siècle, une fontaine, un calvaire, enfin, vraiment tout ce qu'il faut. L'exemple de la réactivité, elle nous a été donnée pour le tremblement de terre à Haïti, donc il y a eu un tremblement de terre, hein, tout le monde s'en souvient, en 2010, assez meurtrier, et donc des volontaires ont pu faire des traces GPS sur OpenStreetMap, donc pour cartographier routes, bâtiments, camps de réfugiés au niveau de Port-au-Prince, et la carte était très complète, ce qui ne permet pas non, évidemment Google Maps, puisqu'il aurait fallu peut-être 200...
Ça avait énormément aidé les secours.
Voilà,
ouais,
il aurait fallu peut-être 200 développeurs, 300 gens à pister les choses pour pas grand-chose, donc... Salut Google si tu nous écoutes. On parle souvent d'Android, mais nous n'hésitons quand même pas à taper un peu sur vous, monsieur Google, n'est-ce pas Google? Donc osm.org, openstreetmap.org, hein, les liens seront sur le site internet dès la fin de l'émission. Mon cher Alain, dis donc, c'est toi qui nous fais la dégeek aujourd'hui.
Une petite dégeek, on va parler aujourd'hui du langage des geeks.
Madame Michu, c'est pour toi.
J'ai sélectionné quelques petits termes pour vous, pas beaucoup, on va dire les principaux. Premier, c'est Madame Michu, justement.
Juste, Alain,
oui.
Je te coupe deux secondes. Ce sont quand même des termes qu'on utilise sur les sites spécialisés.
Ah,
pas
oui,
forcément
oui,
sur
oui.
des sites comme PC Impact ou des choses comme ça. Ce
sur PC Impact, ça arrive,
ça
pas
arrive,
tous.
Oui, oui.
Mais
sur des sites vraiment de geeks, finalement.
Oui, tout
des,
à fait,
sites,
ouais.
des sites internet.
Tout à fait.
Donc, excuse-moi de te couper.
Il n'y a pas de souci. Donc, le premier, justement, c'est un terme que tu viens d'utiliser et que tu as même utilisé déjà deux fois dans cette émission. C'est Madame Michu.
Tu crois qu'elle va me demander des droits?
Oui, sans doute, il y a des chances. Parce que Madame Michu est orientée propriétaire, évidemment.
Ah, oui.
Donc, Madame Michu, c'est qui? Eh bien, Madame Michu, c'est justement, c'est Madame tout le monde. C'est un
ta maman, ma maman.
Voilà,
papa,
tout à fait, tout à fait. C'est pour... C'est en fait la personne qui n'y connaît rien en informatique. Et donc on la prend souvent en exemple pour dire que Madame Michu ne va pas comprendre, Madame Michu va pouvoir utiliser ça parce que c'est...
Madame Michu ne peut pas installer Arch Linux par exemple.
Voilà, Madame Michu ne veut pas installer Arch Linux, mais Madame Michu peut installer Ubuntu. Voilà, donc Madame Michu, voilà, c'est la personne qui n'y connaît rien en informatique, et, mais qui parfois peut-être aimerait bien maîtriser un petit peu plus ce qu'elle fait sur son ordinateur. Voilà, le deuxième terme, c'est bronsoniser. Alors, qu'est-ce que c'est bronsoniser ? Bronsoniser, c'est un terme qui est apparu sur linuxfr.org, le site dont on va parler tout à l'heure. Bronsoniser, ça veut dire que quelqu'un est mort. Alors, pourquoi bronsoniser ? Tout simplement parce que quand Charles Bronson est mort en 2003, je crois, de mémoire, il y a eu 4 ou 5 news à suivre qui ont été 4 ou 5 journaux pardon à suivre qui ont été publiés sur LinuxFR. Et du coup quand Charles Bronson est mort, comme il y a eu toutes ces news là, on a gardé le terme. Chaque fois que quelqu'un meurt maintenant, on dit qu'il a été bronsonisé.
Voilà. Il est décédé effectivement le 30 août 2003 à voilà. Los Angeles.
Quelle mémoire.
Oui, merci. Merci, E, W et A à la fin, vous avez tous compris.
Alors, un barbu.
Non, alors, attention, il n'y a pas de sexe de derrière, parce que je
non. dois préciser. Non.
Ah,
non.
Aujourd'hui, on est un peu en effervescence, j'ai l'impression.
On est assez donné niveau sexe pour aujourd'hui. Un barbu, en général, c'est un développeur. C'est quelqu'un qui passe Richard Stallman par exemple. tout à fait Richard Stallman par exemple, c'est un barbu, puisque donc en fait voilà, c'est quelqu'un qui passe beaucoup de temps sur son ordinateur, ça c'est sûr, qui développe et qui prend pas forcément le temps de s'occuper de lui. Hein, Richard Stallman, bonjour.
Donc, la délation, c'est pas bien.
Donc, et forcément, il n'a pas le temps de se raser, le pauvre. Et donc, voilà, c'est pour ça, c'est un barbu, parce qu'il préfère rester sur son ordinateur plutôt que de se rendre dans sa salle de bain pour passer un petit coup de rasoir sur ses joues.
Et la copine du barbu.
Et la copine du barbu, elle est là.
Je viens de me planter.
Et enfin, le dernier terme pour aujourd'hui et la fin de la dégeek. Justement, dans dégeekalisation, il y a geek. Geek, c'est quoi un geek ? Un geek, c'est un petit peu comme un barbu, mais sauf qu'il ne développe pas. Donc le geek, il va passer également beaucoup de temps sur son PC, il va être passionné par les ordinateurs en général et par les nouvelles technologies. C'est un petit peu comme le nerd, le geek, on mélange parfois les deux termes. Il y a un petit côté un petit peu plus péjoratif pour nerd, je pense.
Oui, j'ai toujours plus ou moins entendu le mot geek pour associer à ça quelque chose de gentil, et c'est vrai que nerd, c'était quelque chose d'assez...
plus péjoratif.
Ouais, assez mauvais en fait.
Ouais,
c'est vraiment celui qui passe son temps dans sa chambre et puis il ne s'occupe pas en fait de. Si, on pourrait dire aussi par extension un autre mot, no life.
Un no life. No life. Voilà.
Bon, c'est pas tout à fait un geek parce que
c'est pas pareil,
nous sommes geeks, on a quand même des vies, mais voilà, pour vraiment aller au plus profond des choses, oui, un no life serait aussi un bon terme.
Tout à fait. Et ben voilà pour la dégeek aujourd'hui.
Voilà, la petite dégeek de Mister Alain.
Voilà, on a fait sobre.
Oui, on a fait plutôt sobre. On vous promet que la semaine prochaine, on va attaquer le lourd. Tiens, tu vas nous décrire toute ta dépêche de LinuxFR sur le noyau, n'est-ce pas ?
Oui, on va faire ça, tout à fait.
On va faire une petite dégeek sur ça.
Donc là, c'est vraiment la mission. On va essayer de dégeekaliser le noyau.
Le noyau, bon,
bon courage. Bon courage.
Dans deux semaines, Alain, je pense qu'on va même devoir séparer le...
On fera une émission spéciale.
Ouais. Ah si, c'est vrai qu'on peut faire ça. Ouais. Une petite émission spéciale sur comment expliquer le noyau.
Bon courage.
Sinon, on peut se partager le travail avec Stinux. C'est peut-être bien aussi.
Mm-hmm.
Le site du jour. Eh bien, oh là là, c'est un très très gros morceau. puisqu'il s'agit de linuxfr.org, nos amis de Da Linux French Page, comme c'est eux qui le définissent, même si ça a disparu de l'en-tête hein, des sites internet.
Ah, je sais pas.
Parce que j'avais remarqué ça quand ils avaient refondu le site. Hein,
en Ruby, ils ont refait le site en Ruby.
Voilà, ils ont fait le site en Ruby et effectivement le site s'appelle plus DLFP, parce que moi quand j'ai connu le site c'était comme ça. Alors linuxfr.org, c'est un peu notre petite Madeleine de Proust, c'est un peu pour se rappeler que dans ce monde de brut fait de logiciels propriétaires et de Windows attaqué par Apple et attaqué par Android qui réattaque Apple après. Bref, dans ce monde de logiciels propriétaires, il existe encore un espace de paix, peace en anglais. Malheureusement...
paix sur linuxfr,
oui, la paix sur linuxfr, on demande quand même à voir. Mais en tout cas, il existe un petit espace sur Internet, isolé, un peu comme des Gaulois à l'époque d'Astérix. Ça s'appelle linuxfr.org, c'est bénévole, je crois qu'ils sont même pas constitués en association en plus de mémoire.
Je pense qu'il y a une asso, en tout cas,
c'est un site pour celui qui aime Linux, celui qui veut se taper des dépêches de 3 heures, celui qui aime se faire insulter quand il dit qu'il utilise un iPad, il n'y a pas de souci. Vous venez sur linuxfr.org, vous serez toujours bien accueillis. On y raconte l'actualité de l'informatique, plus dans les journaux, des logiciels libres, ça c'est plus les dépêches, puisqu'il y a une partie dépêches où...
Avec validation par modérateur,
Oui, exact. Et où là, on a vraiment toutes les grosses sorties logicielles, ça peut être Ubuntu, Firefox, sortie du noyau, des logiciels, pas mal de logiciels éducatifs. Hein. J'ai vu que à chaque fois, des outils scientifiques, vraiment les plus gros logiciels qui peuvent passer sous les distributions GNU Linux.
Et la revue de presse de l'April aussi, qui apparaît toutes les semaines.
Oui, exact, on a droit à ça toutes les semaines. Les journaux sont plus un espace d'expression libre.
Hein. Ouais, c'est comme une sorte de petit blog en fait.
Voilà, ouais, tout à fait, où chacun poste ce qu'il a envie de poster finalement.
On n'est pas obligé dans les journaux de poster des sujets en rapport avec le libre.
Voilà.
Même si c'est toujours préférable.
Même si c'est toujours préférable. Hein, ces derniers temps, on a surtout eu pas mal de commentaires sur la mort de Steve Jobs.
Oui.
Bon. Voilà, où il y a eu en tout cas un journal et ensuite une dépêche, parce que parfois, alors c'était pas la même chose, mais parfois les journaux peuvent passer en mode dépêche si elles sont importantes,
tout à fait.
Évidemment. Donc on y annonce les gens morts, la fameuse bronsonisation. Inventé par le nom du site. Alors le site a été lancé le 28 juin 98 et effectivement je viens de m'apercevoir que
c'est bien une asso
Linux FR. Il y a aussi des forums, là c'est plus un forum de type conventionnel, c'est-à-dire des forums d'aide sur, ouais. J'ai un problème sous Mandriva, j'ai un problème sous Ubuntu, j'ai un problème pour une reconnaissance de matériel, je voudrais choisir tel matériel pour Linux, voilà. Il y a aussi un système de chat, la tribune.
La tribune,
ouh là là, la tribune, c'est encore un...
Pour mouler,
oui. Tu vois, c'était un truc de geek, ça, justement.
J'ai failli le mettre, mais c'est vraiment, vraiment hyper spécifique à LinuxFR.
Parce que c'est vrai que les moules, on en a souvent parlé, et ça a même d'ailleurs fait des polémiques pas possibles sur ça. Personnellement, j'y suis jamais allé.
Non, moi non plus, j'y vais pas trop.
C'est pas l'aspect vraiment qui m'intéresse sur ce site-là.
Hein. C'est les journaux, les dépêches.
Les dépêches. Les journaux, les forums.
Là, c'est sûr qu'on peut rater. J'ai les journaux et les dépêches dans mes flux RSS. Avec ça, on rate aucune news.
Voilà, tout à fait. C'est pas au niveau, on va dire, que ça se situe, comme c'est une association, ça se situe derrière un site comme PC Impact, puisque PC Impact est plus un site d'informatique générale. Ouais. D'ailleurs, il traite un petit peu trop souvent de Facebook à mon goût. mais c'est un site aussi qui aime marier l'humour, l'ironie, la dérision, même si effectivement ça reste PC Impact et non pas LinuxFR. LinuxFR a toujours ce côté effectivement de publication très rapide, puisque comme ce sont des gens comme vous et moi qui font les journaux et les dépêches, forcément ça va très très vite. Donc par exemple, je crois que la mort de Steve Jobs avait été annoncée même pas une heure après sur le site.
Ah oui, ça a dû être fait très vite.
Il y avait un journal, donc pour reprendre l'exemple.
Et souvent, les commentaires sont également très intéressants.
Très intéressants, ça dépend parce que ça peut vite dériver.
Mais parfois, les commentaires sont plus intéressants que le journal en lui-même.
Alors, si vous voulez vous inscrire, inscrivez-vous. Par contre, faites preuve quand même d'autodérision, d'ironie et ce genre de choses-là, puisque vous serez plus... Vous seriez toujours dans le plus au niveau du karma. Donc chaque commentaire possède un karma particulier, noté de moins 10 à 10. Vous serez plus auprès des 10. Si vous remarquez les commentaires qui jouent sur la dérision, ont toujours cette note-là, plutôt que les commentaires qui prônent un peu plus de sérieux, où là, ça sera plus du moins 5. Ou pas pertinent.
C'est la pertinence du commentaire qui prévaut dessus.
Donc bon, parfois, on peut se dire, bah non, c'est pas pertinent. Et puis en relisant, effectivement, c'était un peu drôle, donc on voit que c'était à plus 10, donc, magnifique, voilà. Mais souvent, alors c'est pas un truc qui est vachement à faire gaffe, hein, c'est pas... Faut plus faire gaffe, en fait, plus à la popularité des journaux, puisque oui, chaque journal ou dépêche a une popularité, donc si vous voyez qu'effectivement, mort de Steve Jobs, qui doit être rendu à moins 100, peut-être, je suis pas très sûr, on va regarder, mais en tout cas, ce que l'on sait, c'est que certains contenus sont vraiment automodérés, dès qu'on voit le truc, ouais, c'est pas en rapport, hop, je moins, c'est en rapport, hop, je plus, donc c'est vraiment interactif, collaboratif, plein de news, on y apprend toujours quelque chose, et surtout les dépêches sur les noyaux sont absolument fantastiques et bien gérées. D'ailleurs, je salue Patrick G. Hein, je sais pas, je crois que c'est l'administrateur ou le collaborateur du site. Est-ce que c'est l'administrateur principal?
Ça doit être un des admins, je crois.
Ouais. C'est un des admins, donc Patrick G, si tu nous écoutes, on espère peut-être t'avoir un jour dans l'émission. Hein, ça serait super intéressant que tu nous décrives ton expérience de Linux French Page.
Et donc, puis, vas-y, là. Excuse-moi, je te coupe. Steve Jobs bronzonisé, c'est moins 26.
Voilà, donc d'où l'intérêt de ne pas forcément y aller. Ça ne sert pas à grand chose, sinon de dire que Steve Jobs est mort et on s'en fout un peu. Même si on en parle depuis tout à l'heure, je me demande bien pourquoi. Donc voilà. Il y a aussi un salon de discussion IRC, donc sur le réseau Freenode, hein, Linux FR, hein, Diaz Linux FR, et sur Jabber, Linux FR, @chat.jabberfr.org sur Jabber. Donc le site a 13 ans, chaque année ils font des interviews, hein. Je ne sais pas si l'année dernière ils en avaient fait, mais en tout cas cette année ils en ont fait une, hein, pour les 13 ans, où ils invitent des gens à parler du site, comment ils l'ont découvert, quel est leur niveau d'implication dans ce site. Donc voilà, c'est vraiment, on va dire, celui qui est sur linuxfr.org en général commence déjà à bien tâter du Linux, en règle générale.
Oui, ou en tout cas à être au courant de ce qui se passe.
De ce qui se passe, et c'est vraiment l'endroit où il faut être connu, et ça serait un peu...
Il faut être connu.
Il faut être connu, ça serait un peu le Facebook du libre, pardon aux administrateurs.
Si à 35 ans, t'es pas connu sur LinuxFR, t'as raté ta vie.
Voilà, tout à fait. Merci Jacques Séguéla. 50 ans en face de moi. Donc voilà, pour LinuxFR.org. Donc si jamais vous nous écoutez, hein, les petits loulous de LinuxFR.org, eh bien écoutez, faites-nous signe. Alors, on se fera un plaisir de vous inviter, mais ne jetez pas la pierre avant quand même. On voudrait pas... Parce qu'ils ont, ils ont un peu l'habitude de foutre les projets morts enterrés avant même qu'ils commencent. Donc,
c'est vrai que ça arrive.
Ça peut arriver. Non, on sait bien que c'est gentil, hein, entre collègues du libre. Hein. Donc voilà pour la partie site de la semaine. On va essayer également, on est en train de gérer actuellement là, pour avoir quelqu'un responsable de Planète Libre.
Oui.
Je ne sais pas si un jour...
Enfin, on est en train de gérer.
On est en train de gérer ça.
On y pense, en tout cas.
On y pense. Donc on espère qu'un jour, on aura un signe de également. Eh bien écoutez, la suite, Alain, c'est pour toi, je pense. C'est le point DistroWatch.
Le point DistroWatch,
oui,
tout à fait. Je vois que nous avons Chakra qui sort une nouvelle version.
C'est une version de développement. Hein.
C'est une version de développement, oui, tout à fait. On est quand même à du 1,2 Go, hein, pour une version de développement.
Ah, parce que c'est la version DVD.
C'est une version DVD. Donc Chakra, c'est une distribution clé en main, basée sur KDE, basée surtout sur Arch Linux.
Voilà.
Je me rappelle avoir testé il y a assez longtemps une des premières versions, ça m'avait beaucoup plu, j'avais trouvé ça très joli. Très facile à installer, et puis l'interface graphique, la couche graphique de Pac-Man qu'ils avaient réalisée était plutôt réussie. C'était une des premières interfaces graphiques à Pac-Man, le gestionnaire de paquets, donc que j'avais trouvé vraiment intéressante. Donc bah voilà, Chakra qui sort une nouvelle version, en tout cas pour l'instant en développement, en attendant d'avoir une version finale.
Moi j'ai testé tout simplement. Donc, j'ai testé ce Chakra GNU Linux
10.26.
Premier retour, l'installateur est très user friendly. Madame Michu quand même n'installera pas, mais en tout cas c'est largement accessible pour quelqu'un qui a quelques connaissances de base sous Linux. C'est assez user friendly. Juste une petite remarque, c'est qu'au niveau des gestionnaires de partitions, quand vous voulez installer dans le cas d'un multiboot ou ce genre de choses là, c'est un peu plus compliqué. Il faut surtout pas faire confiance au KDE, au partitionnement par l'outil de KDE, puisqu'il a un peu de mal à marcher. Il faudrait passer par un gpartite avant et créer une partition, et ensuite effectivement vous pouvez faire fonctionner. Ça marche très bien, c'est assez stable dans ce que j'ai fait. J'ai fait de la lecture vidéo, de la navigation internet, des trucs assez basiques. Effectivement l'outil qui gère Pac-Man est assez intéressant, même si on a toujours l'habitude de faire un Pac-Man SY.
Quand on est habitué à Pac-Man en mode commande, c'est sûr que c'est quand même super pratique.
Et donc donc ce sont les outils d'Arch Linux. Par contre, ce ne sont pas les mêmes sources puisque ils ne sont pas déposés sur les serveurs. C'est des serveurs spécifiques de mémoire, parce que je l'ai désinstallé juste après, j'avais besoin d'un peu de place. Mais c'est vraiment quelque chose d'assez abouti. Ça pourrait devenir un bon concurrent à toutes les autres distributions KDE, même si effectivement pour celui qui a envie de se construire un système pas à pas, il existe toujours Arch Linux et modulaire. La suite
En parlant justement de système pas à pas, la sortie d'un, non pas d'une distribution, mais d'un bouquin qui s'appelle Linux from Scratch, version 7. Alors Linux from Scratch, c'est un e-book. C'est un e-book complet qui permet de pas à pas
de construire
son propre Linux from Scratch, donc depuis rien. J'ai déjà essayé il y a longtemps, c'était en 2004 ou 2005. C'est pas évident.
Non,
c'est pas facile. Bon, je débutais, mais c'est vraiment pas facile.
Même si on a quand même, par exemple, là je regarde DistroWatch, on a quand même le kernel Linux qui est en version 3.1, donc on a quelque chose d'assez à jour. Mais c'est vraiment, l'objectif, c'est de construire sa distribution.
Voilà, depuis donc, rien. Il faut tout compiler, la totale. Non, mais par contre, pour quelqu'un qui veut comprendre comment ça fonctionne Linux et comment même dans l'ensemble ça fonctionne en système d'exploitation, se faire un petit Linux from scratch, même si on n'arrive pas jusqu'au bout de la procédure, déjà ça permet d'apprendre énormément de choses.
Voilà, moi je pense que je le testerai puisque je suis un peu arrivé au bout de ce que je voulais faire sous Linux, c'est-à-dire qu'à part Gentoo où j'ai jamais trop touché, je pense qu'il me manque pas grand chose. C'est vrai que ça peut-être me permettre d'en apprendre davantage, mais voilà, on m'a dit que c'était quand même extrêmement difficile. 327 pages quand même le book, donc
ça va.
Donc il est disponible en vision sur internet, en téléchargement par HTML ou par PDF, et donc lisible sur toute plateforme qui
sait
qui sait gérer le PDF, un smartphone, smartphone et ordinateur ou tablette. Ça peut être intéressant d'ailleurs sur les tablettes de faire un style. Moi je dis Linux from scratch, tu connais pas. Je peux dire que moi non plus je connais pas. C'est donc bonne chance pour celui qui veut faire, mais on vous fera des retours parce que je pense que je vais télécharger de suite le truc et puis on vous fera des retours. Et,
alors c'est en anglais bien sûr.
C'est en anglais. Donc, voilà, par contre, je vais avoir beaucoup plus de mal. C'est pas les dépêches de Linux, du kernel Linux, si c'est ça en anglais, ça va peut-être pas le faire. Mais je crois que c'était en français. Si, ça a été
francisé, traduit,
ça a été francisé sur le 6 pour le LFE 6.8.
Ah, le 6.8, d'accord.
Oui.
D'accord.
C'est peut-être francisé.
Alors le 7 doit pas être francisé encore, du coup, doit pas être traduit.
C'est possible que ça n'a pas été encore traduit.
Mais ça viendra.
Oui, je pense. Donc voilà. Qu'est-ce que nous avons ? Nous avons une release candidate.
Attends, tu te rappelles, on a parlé d'une distribution dans la dernière émission qui s'appelle Poupy Linux. Et ben donc du coup, je te laisse parler de Poupy Linux.
Papy.
Alors, Puppy Linux sort sa version 5.3 Slacko. Sauf que, comme l'indique son nom, ça vous aura peut-être pas échappé, c'est du Slackware. Mm-hmm. C'est plus du Ubuntu parce que c'était de mémoire, je crois que Puppy Linux était du Ubuntu avant. C'était du Ubuntu. Tu peux parler dans le micro, il n'y a pas de souci. non, c'est du Puppy Linux Slacko. Puppy, donc qui est un système basé sur Slackware 1337, le fameux Slackware avec Elite à l'envers. Il y avait toute une petite news, tu sais, le 1337 était le truc qui était inversé en fait. Quand tu retournais, ça voulait dire l'élite.
De quoi tu parles?
Tape signification de 1337. Il y avait une dépêche sur Linux. Voilà, Elite, oui. Elite ou Elite, enfin bref. En tout cas, un truc qui n'est pas accessible pour le commun des mortels, ni pour Madame Michu d'ailleurs. Quelle fois que je le dis. Avec un kernel somme toute assez classique, hein, 2.6.37.6, donc pas grand chose à se mettre sous la dent. C'est vraiment une mise à jour de Puppy Linux à l'origine. C'est une petite distribution qui peut refaire remarcher de bonne manière un vieux système qui tournait par exemple sous XP. Ça fait 124 mégas à télécharger, c'est pas énorme. Mais c'est, enfin moi en tout cas pour l'avoir sur un de mes PC, c'est bien, ça permet quand même d'avoir une lecture DVD, une lecture vidéo, une lecture de MP3, enfin de faire un truc classique sur son PC, hein, sans aller plus loin, sans non plus compiler un tas de logiciels. Donc voilà, c'est Puppy Linux 5.3 Slacko, et c'est sorti, en tout cas sur Linux, sur DistroWatch, c'était le 25 octobre dernier. C'est bien ça, hein, c'est bien du Slacko. Oui, parce qu'en fait, il y avait une version 5.2 Wari. Et je crois que de mémoire, elle était sur... Eh bien non, même pas, parce qu'elle, c'était du Xorg. Alors, je ne sais pas où est-ce que j'ai pu voir que... il me semblait de toute façon qu'il y avait du Ubuntu dans l'air, ou alors... Oui, voilà, c'est ça. Mais écoutez, je ne vous ai pas dit de bêtises, parce qu'effectivement, la 5.2.8 était basée sur des packages de Ubuntu. Et là, effectivement, on est passé sur du Slackware, donc je ne sais pas où est-ce qu'ils ont la tête. Hein. Peut-être qu'ils ont la tête à faire compliquer la distribution. Bah, bref, en tout cas, à tester si jamais ça vous intéresse de remettre à flot un ordinateur chez vous.
La suite, Alain, c'est la sortie de OpenSUSE.
Ouais, OpenSUSE en version
10.1 RC1.
Ouais, Release Candidate. Ouais.
Ouais. Tu l'as testé?
Ouais, je l'ai testé. Je vous dis honnêtement, ne testez pas. Très mauvais retour, en tout cas sur mon PC. Hein. Après, évidemment, chaque PC a sa spécification. Mais,
bon, c'est une RC1. Hein,
ouais, c'est une RC1. Et non, C'est moyen. J'ai déjà eu l'occasion d'approcher la 11.4 d'OpenSUSE. C'était quelque chose d'assez bien, d'assez fini, hein, dans la même veine que Fedora. En tout cas, je mets Fedora et OpenSUSE un peu sur le même plan. Et non, ça m'a jamais super bien convaincu. Il reste toujours des problèmes, notamment tout ne marche pas dès le départ. Après, le vert en plus.
Ouais,
vert est un choix discutable, fun, comme le bleu de Fedora et comme le violet d'Ubuntu.
Pourtant, le vert de Linux Mint me plaît beaucoup.
Ouais, le vert me plaît beaucoup, mais là, c'est
plus menthe, quoi.
Oui, voilà, oui, voilà.
D'où le nom,
ouais, Mint. Ça, c'est pour meubler. on peut simplement dire que donc le dernier Firefox, le dernier GNOME, donc 3.2, le dernier KDE 4.7, enfin le Grub mise à jour, puisque c'est le Grub 2. Rien de bien intéressant. Intéressant, on pouvait tester, c'est bien, voilà, on va dire juste pour faire tourner un PC dans le vide,
ça marche.
Après, bon, pour aller plus loin, moi j'ai toujours un reproche avec cette distribution, c'est le maudit gestionnaire de paquets, le YAST, et quelque chose se taper dessus, parce qu'on en retrouve du partout, on mange à toutes les sauces du YAST sur OpenSUSE, et c'est franchement énervant. C'est d'ailleurs le seul reproche que je pourrais vraiment faire, c'est qu'au-delà de la couleur ou de l'implémentation ou de la reconnaissance du matériel, c'est vraiment YAST qui me pose toujours un gros souci. C'est d'ailleurs comme Fedora et CRPM, c'est pareil, voilà. Ça m'a toujours un peu fait côté. Donc non, c'est... Voilà. Vous pouvez tester. Je sais que Chtinux l'avait testé dans son émission l'année dernière. Et il avait trouvé ça pas mal, ça tournait plutôt bien, donc testez, vous verrez bien, mais bon, voilà, moi je suis pas très convaincu, Alain, peut-être que tu...
Moi, j'ai pas testé non plus.
Est-ce que t'as déjà testé?
J'ai déjà testé, oui. Ça fait déjà quelques temps. J'ai pas accroché. Mais je suis sûr qu'il y a des gens qui aimeraient ça. Hein.
Oui, voilà, oui, tout à fait, oui. Voilà, donc pour OpenSUSE. Alors, juste une précision par rapport à la semaine dernière, parce que je sais que ça n'a pas été dit, mais que ça pouvait très bien porter sujet à confusion. On vous donne les statistiques, en fait, du nombre de gens qui sont intéressés par les distributions, donc le fameux top 5 ou top 10. Alors non, c'est pas le nombre de gens qui utilisent Ubuntu ou Mint ou Fedora, en fait, dans leur ordinateur, c'est le nombre de clics sur... sur le site DistroWatch. Donc c'est très important parce qu'il y avait eu une polémique il y a quelques années de ça à propos de PC Linux OS qui est monté en flèche d'ailleurs il est 7e cette semaine. Mm-hmm. Donc voilà, c'est vraiment le nombre d'intérêts, mais ça reflète quelque part, ça reflète un tout petit peu en fait le nombre de si les gens désertent une distribution après une nouvelle version comme c'est le cas d'Ubuntu, si les gens ont des problèmes et qu'on voit qu'il y a une masse qui part sur autre chose, qui vont commencer à cliquer sur d'autres distributions. Donc ça peut être quand même intéressant. C'est pour ça qu'on vous le donne. Et donc aujourd'hui, dans le top 15, on va faire jusqu'au 15, puisqu'on a Chakra en 15e position.
Chakra.
Oui, voilà,
justement, on en parlait.
Chakra qui est quand même très intéressant et qui commence un peu à être connu, hein, quand même loin derrière de son grand frère Arch Linux.
Arch Linux.
Au lieu de Arc, on m'a fait la remarque. Merci à la personne qui m'a fait la remarque. Je ne ferai plus l'erreur. En 14e position, mon cher Alain,
Scientifique ouais, Linux.
Je crois que c'est doit être du Red Hat.
C'est un Red Hat, tout à fait, tout à fait. Co-développé par le Fermi National Accelerator Laboratory and the European Organization for Nuclear Research. Le CERN.
Le CERN, le CERN de Genève. C'est pas eux qui... Ah ben si, c'est le fameux laboratoire qui fait l'accélérateur de particules, dans le sud de la France, là, qu'ils ont quand même découvert pas mal de choses. Oui. Donc attention pour les scientifiques. Hein. Parce qu'à mon avis, pas question de faire du jeu dessus ou de la navigation sur Facebook. Voilà.
C'est fait pour les scientifiques.
Non, mais je pense quand même que... j'en parlerai tout à l'heure, hein, je vous parlerai du test que j'ai effectué au complet pour Fedora Gnome, puisqu'on a un peu le temps. Mais en tout cas, voilà, c'est pour tester, juste pour délirer, je vais tester, je vais voir à quoi ça ressemble. Ayant une petite formation en scientifique, ça va peut-être m'intéresser.
Fais de la physique quantique.
Oui, la physique quantique, j'en fais tous les jours régulièrement.
En 13e.
13e, Slackware. Le fameux Slackware 1337. En 12e, Mageia.
Toujours pas testé, il paraît que c'est pas mal.
Test, parce que j'ai testé et voilà. Effectivement c'est pas mal. Bon, je suis pas testé, mais il va falloir, j'ai encore toute une semaine de travail à réorganiser mon PC. Donc
Mageia, le fork de Mandriva.
Voilà, tout à fait.
Qui a été lancé en septembre 2010.
Voilà, et collaboratif à la manière d'un Debian, avec un contrat social. Je crois. Mageia, si tu nous écoutes. L'Ubuntu, qui est la version LXDE, le bureau LXDE d'Ubuntu, 11e position, qui est en fait la version qui est officiellement supportée, parce qu'avant, elle n'était pas, le bureau LXDE n'était pas supporté officiellement.
D'accord.
C'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, il est supporté de manière officielle. En 10e position,
Mandriva.
Papy fait de la résistance.
Voilà, exactement. Exactement.
Et juste au-dessus, Puppy.
Forcément, il y a. Il y a plus de clics, puisqu'il y a une nouvelle version hein, donc les gens cliquent.
Oui, voilà. Encore un Red Hat dans le classement,
CentOS.
CentOS, hein, toujours. 7e position, PC Linux OS, hein, qui était un Debian de mémoire, je crois que c'était un dérivé de Debian. Alors il y a tellement de dérivés partout que forcément on s'y perd un peu. Non, c'est un fork original de Mandriva aussi. Donc voilà, comme quoi.
Voilà, comme ça.
Comme ça, on était loin quand même de 6e Arch Linux, toujours les outsiders. Et enfin, le top 5, hein, toujours les mêmes, OpenSUSE, Debian, Fedora, Mint et Ubuntu. Même si l'écart se creuse entre Ubuntu et Mint, hein, puisque Mint va sortir une version du mois prochain.
Puisqu'il y a la 11.10 d'Ubuntu qui est sortie, donc la prochaine version de Mint devrait pas tarder.
Tout à fait.
Puisque Mint est basé sur Ubuntu.
Voilà, tout à fait. Donc voilà un peu pour l'ensemble des news cette semaine. Juste un petit mot.
Sabayon Linux 7 Core qui est également sorti. Bon, bah Sabayon, par contre, il faut aller chercher dans le classement, parce qu'il n'est pas forcément. Et il est très loin, le Sabayon, il est très loin. Je crois même qu'il n'est même pas dans les 20 premiers de mémoire, il n'est même pas dans les 30 premiers. C'est de mémoire, ça, c'est pas une Slackware ou un truc comme ça, je crois. Bref, un truc assez obscur finalement. Mais voilà, Sabayon, j'ai eu l'occasion un jour de tester et j'ai reformaté mon PC tout de suite. J'ai pas pu, je sais pas qu'est-ce qui me plaisait pas. Voilà, c'est une Gentoo.
Sabayon, 16ème.
Ah, 16ème. C'est une Gentoo.
16ème, c'est. Alors moi je dis Gentoo. Hein.
J'ai du mal avec les noms.
C'est un Gentoo précompilé.
Ok, d'accord. Voilà. Bon, voilà, c'est un Gentoo précompilé. Voilà. Dernière rubrique de l'émission. Nos rendez-vous à, autour de Rennes hein, et alentour. Je te laisse annoncer la première, monsieur Alain.
Oui, la cantine, tout à fait. Numérique. La cantine numérique.
On
n'a
pas
Rennes.
Parlé encore dehors.
Donc là, ça va. C'est pas un sujet. Ça parle pas particulièrement de libre, mais c'est un
ça
sujet plutôt intéressant
oui,
puisque
intéressant.
Ça peut éventuellement toucher à la neutralité du net, notamment sur le trafic mobile. Donc le prochain Mobile Monday à la cantine numérique de Rennes parlera de l'explosion du trafic data sur les mobiles. Donc
vaste sujet, grand sujet quand même.
Deux intervenants viendront parler de ce sujet-là. Ce sera alors
Jean-Pierre Cazara, directeur LTE et IMB au Technocentre Orange, bah, et Yacine Mafoufi, senior analyste corporate stratégie multimédia d'Alcatel.
Et ce sera le 14 novembre à partir de 18h45. Donc n'hésitez pas à y aller. Moi je vais essayer d'y aller parce qu'à mon avis, ce sera passionnant.
On va peut-être faire un petit reportage. Hein,
pourquoi
ce,
pas.
Ce sera peut-être bien. J'ai un dictaphone qui ne sert pas grand-chose. On va peut-être faire un petit reportage. Hein, d'ailleurs, peut-être que dans l'émission, on fera évoluer vers peut-être une section reportage quand on aura le temps d'en réaliser un. Donc voilà, ça peut être, c'est très intéressant de toute façon puisque on sait qu'une partie, une grosse partie du trafic mobile data, c'est de l'Android comme de l'iPhone,
voilà.
Donc l'Android, ça
reste
du Linux,
puis,
ça peut être aussi intéressant.
Et puis, de toute façon, le trafic data, c'est clair que ça explose.
Oui, voilà, le nombre de téléphones hein, de toute manière.
Depuis que j'ai un smartphone, c'est sûr que c'est une chose.
Il est jamais éteint.
Parce qu'avant j'avais un 3310, donc forcément.
Il
n'y
a pas de trafic data. C'était juste des ondes. deuxième rendez-vous, alors là c'est vraiment du libre, hein, ça touche vraiment directement au libre. C'est un atelier BEPO à Rennes proposé par l'association Actux. Actux, si tu nous écoutes ou si vous nous écoutez, manifestez-vous s'il vous plaît. On voudrait bien un peu que vous nous disiez qu'est-ce que vous en pensez parce que bon, on expliquait la dernière émission. C'est vrai qu'au niveau des associations, on est un peu à la rue, donc on aimerait bien qu'ils se manifestent, les petits loups. Alors, donc l'association vous invite à participer à l'atelier sur la dispo du clavier BEPO, une disposition ergonomique, libre et francophone. Dis donc, plein d'avantages.
Oui, parce que la version américaine du BEPO, c'est le Dvorak.
Voilà, bon, alors le Dvorak ou le BEPO, qu'est-ce que c'est? C'est une disposition, alors vous savez que vos claviers en France sont des claviers AZERTY, vous prenez en fait les 6 premières lettres, hein, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Les 6 premières lettres du clavier AZERTY, et en Angleterre, aux États-Unis et dans d'autres pays dans le monde, c'est le QWERTY, donc vous remplacez le AZ par le QW, vous avez également le M aussi est disposé autrement, les signes, bref, c'est pas forcément facile de parler en QWERTY quand on est
non,
en France,
c'est sûr, c'est
parce
pas,
qu'on n'a pas les claviers
pas facile, ouais.
Et justement, le BEPO, vas-y.
Ce que j'allais dire par rapport à ces dispositions-là, AZERTY et QWERTY, c'est que on utilise toujours ça sur les PC, mais ça date des machines à écrire,
ouais.
Puisque cette disposition-là avait été adoptée pour espacer les lettres qu'on utilise le plus souvent, afin que les broches des machines à écrire ne s'entrechoquent pas. Donc, on a gardé cette disposition-là pour les ordinateurs. C'est complètement obsolète, mais c'est tellement rentré dans les mœurs que c'est vrai qu'on a du mal à passer à autre chose. Le BEPO, j'ai pas essayé. tous ceux qui ont essayé disent que c'est quand même pas mal.
C'est pas mal, c'est mais quand même il faut un temps d'adaptation, il paraît.
Ouais, évidemment.
Il faut un temps d'adaptation, donc qui peut être assez long.
Il y a des logiciels qui servent à apprendre à écrire en BPO rapidement.
D'accord. Oui. Ah ouais, d'accord. Bah pourquoi pas. je pense que je m'y pencherai en tout cas. Donc,
Et ils vendent aussi des petits sets d'autocollants pour remplacer les autocollants des lettres sur les claviers des ordinateurs portables.
Intéressant. Ouais. Bon bah voilà, bah comme ça peut-être que je upgraderai le mien pour en faire un clavier BPO. C'est de 18h30 à 20h30, c'est à Actux. Alors messieurs de chez Actux, en plus on n'avait même pas mis l'endroit où c'est. Donc
c'est 4 bis cours des Alliés
voilà,
à Rennes.
Voilà, c'est eux qui ont un local.
Ouais, c'est juste à côté du métro Charles de Gaulle.
Voilà, c'est ça. Accès, donc vous pouvez déposer, par exemple, si vous venez de l'extérieur de Rennes, vous pouvez déposer votre voiture dans les parkings de la Poterie, par exemple.
Tout à fait.
Donc vous prenez le métro Poterie, direct sans Villejean. Voilà. Et vous arrivez donc juste après la gare, c'est l'arrêt Charles de Gaulle. Vous sortez, vous avez deux grands bâtiments, la chambre des métiers et de l'industrie, et le 4 bis, donc c'est juste à l'intérieur. Mademoiselle Natacha, d'ailleurs, si tu m'écoutes, tu sais que j'ai toujours besoin de mon petit PC portable, mais je pense pas que tu vas m'écouter. C'est un message personnel. Il y a même, tiens, sur le site d'Actus, ils nous disent pour accéder au troisième étage, il faut outrepasser la barrière dans l'escalier. Donc en gros, sauter depuis le troisième étage. Non, je rigole. Donc venez avec votre ordinateur et donc ils vous présenteront. Alors peut-être que, je sais pas, je vais peut-être y aller aussi.
Ils emmènent, des claviers. Donc vous venez avec votre ordinateur, eux ils ont des claviers BPO. Donc même si vous avez un ordinateur portable, vous branchez votre clavier dessus et vous le faites prendre en compte, enfin ils vous aideront à faire tout ça, prendre en compte le clavier, et comme ça vous pourrez faire des essais. Peut-être que je vais aller faire un tour si j'ai le temps, pas sûr également.
Donc à voir. Si, de toute façon, vous en saurez plus si on aura fait des reportages. On vous diffusera ça, bien évidemment, dans l'émission. Bien écoute, je crois que c'est la fin, mon petit Alain.
Regardez
vos compteurs, on a quand même fait une heure. On est à une heure et des poussières, puisqu'évidemment l'émission est montée, donc certains passages ne sont pas accessibles pour vous. Non, on fait rien de cochon, ne vous inquiétez pas, malgré le thème de l'émission aujourd'hui, le sexe libre.
Non, tiens, oui, on n'a si pas parlé libre, que de ça.
Le libertinage, ça pourrait peut-être rentrer en compte, ça dit donc, le sexe libre.
Ah oui, tiens, le sexe libre, pourquoi pas.
Libertinage, mais là, on sort du cadre. Voilà, et bien écoutez, j'espère que vous aurez apprécié l'émission à sa juste valeur. Et puis toujours les mêmes sites enfulibre.tuxfamily.org, c'est le site internet. Donc pour déposer tous vos commentaires, télécharger l'émission.
N'hésitez pas, les commentaires, voilà, on est preneurs,
surtout que l'émission là ne sera pas non plus parfaite, mais en tout cas on approche peu à peu de la perfection. On l'espère.
En tout cas, merci beaucoup pour tous vos commentaires et vos critiques.
Constructif,
très intéressant, très encourageant. Voilà. Et donc on essaye de continuer sur cette voie-là.
Voilà.
Et merci à tous.
Donc on peut annoncer maintenant la périodicité. Mercredi, tous les mercredis, toutes les deux semaines, il sera en ligne. Donc,
tout à fait.
Vous pouvez télécharger l'émission le mercredi. On essaie d'enregistrer le dimanche ou les jours suivants si on a le temps. On note également qu'on va essayer de faire pas mal de partenariats avec Chitinux. Donc l'émission L'écho des Gnous, on est en train de voir ça ensemble actuellement. Donc essayer de faire des émissions transgenres. Donc n'hésitez pas également à écouter leur émission, hein, L'écho des Gnous, sur chtinux.org et sur Radio Campus Lille. Il n'y aura pas d'iTunes, donc de ma décision personnelle, et je trouve que je n'utilise pas iTunes. Voilà, j'ai fini par outrepasser le iTunes. Je préfère ne pas mettre pour l'instant l'émission dessus. On verra plus tard si au niveau de la popularité on sera assez fort pour en mettre un, mais bon, pour l'instant
pourquoi pas sur Banshee.
Sur
Banshee,
ils ont
il y a un truc de podcast,
c'est possible. Donc peut-être sur Banshee, mais en tout cas sur iTunes on attendra quand même un tout petit peu, et bien qu'il y ait une news en fait qui nous est passée dessus.
Et quoi? Qu'est-ce qu'on a raté?
On a raté que Apple a libéré le code de l'ALAC, l'Apple Lossless, machin.
Ouais.
Ouais, audio codec, voilà, qui est passé en version open source.
Oui.
Donc, on en parlera peut-être la semaine prochaine. Mais
licence
effectivement,
Apache 2.
Apache 2, oui. Pas totalement libre quand même.
Ah bah si, c'est libre. Hein.
Oui, enfin, bon,
si, c'est libre.
Quand c'est Apple, c'est pas totalement libre. Mais... oh, les mauvaises langues.
Le troller.
Le troller.
Je vous présente l'émission avec un troller professionnel. C'est pas facile tous les jours.
Et tu te rappelles quand même que l'annonce de l'émission, quand j'ai voulu commencer l'émission, j'ai failli manquer de faire un gros troll. Je sais pas si
oui,
tu te rappelles
sur,
avec
les
Gmail.
Ouais.
Je n'ai pas d'email libre et là tout le monde est parti sur les emails. Voilà. Mais non, j'ai pas voulu faire de troll. Comme on leur expliquait, c'était sur LinuxFR.
Oui,
en tout cas, on salue nos amis de linuxfr.org. Si vous nous écoutez, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou parce que nous on aimerait bien vous avoir dans l'émission. On salue Ch'tinux également s'il nous écoute. J'en suis sûr et certain. Retrouvez-nous aussi dans le flux d'identi.ca, c'est identi.ca/enflux libre. L'émission y est annoncée toutes les deux semaines. Et enfin, nos blogs respectifs, blog.aldevar.fr et le mien, redscape.aldevar.fr. Vous avez notamment une news sur Plasma Active One.
Oui.
Et toi, Alain, ta dernière news, c'était quoi déjà?
Je sais plus.
Je ne sais plus non plus. Je crois que c'était pas, c'est pas Bada de Samsung.
Si, c'est possible.
C'est possible que ça soit lui. non, c'était la prise de contrôle, je crois. La prise de contrôle.
Prise de contrôle de distance avec Jitso.
Voilà, tout à fait. Jitso qu'on parlera, je pense, un jour dans le focus ou dans un test logiciel.
Mm-hmm.
Peut-être qu'on introduira ça un peu plus tard. Merci beaucoup de nous avoir suivis, Alain.
Merci à tous, merci à toi, Gislain.
Bah, merci à toi, Alain. Je te dis dans deux semaines.
À dans deux semaines.
Je l'espère, avec de nouvelles aventures du libre et de Linux. Et on vous quitte sur le générique raccourci, n'est-ce pas, messieurs? Bonne soirée à vous tous et bon vent. Et à la semaine prochaine.
Non, à dans deux semaines.
À dans deux semaines, c'est mieux. Salut à tous. Salut,
salut.
Alain.
C'est pas grave.